Sylvie Jurietti, vous êtes directrice du musée départemental de préhistoire des Gorges du Verdon à Quinçon. Le programme cette année, quel est-il ?
Nous avons deux expositions temporaires. La principale s'appelle « Sors de ta réserve ». Elle est l'occasion de fêter les 40 ans de la réserve géologique de Haute-Provence, qui est aussi gérée par le département. Et la seconde s'appelle « Idole néolithique de Provence » et concerne les stèles funéraires avec des décors très particuliers.
Alors, que voit-on pour ce qui concerne la géologie ?
Alors là, dans cette exposition, l'idée était à la fois de présenter la réserve, ses missions, ce qu'est le patrimoine géologique, d'autant que ce patrimoine géologique a été vraiment mis en avant dans la région, dans le département. Et ensuite, le cœur de l'exposition est consacré aux pépites de la réserve, c'est-à-dire les grandes découvertes, les différents ichthyosaures, puisque plusieurs ichthyosaures ont été mis au jour, le plésiosaure de Tartonne, les pas d'oiseaux, les plages avec les empreintes fossiles de pas d'oiseaux, évidemment les ammonites, la dallosammonite et les autres ammonites, mais aussi des choses un peu moins connues avec des bois fossiles. Et cette exposition, elle se conclut sur une série de photographies de grands paysages avec une géomorphologie particulière, et ce qui est une invitation pour le visiteur à aller sur le territoire pour aller visiter ces sites, notamment au travers des sentiers qui sont balisés autour de ces curiosités géologiques.
Si ces objets sortent de leur réserve, c'est qu'on ne les voyait pas auparavant, c'est ça ?
Tout à fait. La réserve a des réserves pour conserver ses collections, mais pas de lieu d'exposition. En outre, certains de ces fossiles, notamment le plésiosaure, l'ichthyosaure de la mêlée, n'étaient pas présentés au public, viennent d'être préparés, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'un dégagement et d'une consolidation au Muséum d'Aix, et donc ces fossiles-là n'avaient pas encore été vus.
Cette exposition se tiendra jusqu'à quand ?
Jusqu'au 15 décembre, à la date de fermeture du musée, en étant sur toute l'ouverture 2024 du musée.
Et pour ce qui concerne la seconde exposition, donc ?
Alors, sur les stèles, ce sont des stèles qui sont caractéristiques de notre région de la Haute-Provence, et ce sont des stèles funéraires qui ont des décors anthropomorphes, des visages humains très stylisés, sans bouche ni oreille, on a juste le nez, et des décors de chevrons qui peuvent éventuellement correspondre à une coiffure ou à une coiffe. On a souhaité présenter cette exposition qui est le fruit d'un travail de thèse sur le travail de Jules Masson-Mouret et qui permet de faire aujourd'hui un bilan de ce qu'on connaît sur ces stèles. C'est ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il s'agit de stèles funéraires qui devaient marquer l'emplacement des cendres de défunts qui avaient été incinérés.
Alors ces stèles, d'où viennent-elles et peut-on les dater ?
Alors grâce à des découvertes récentes où on a une association entre des stèles et d'autres vestiges, notamment une découverte à Oraison où la stèle a été découverte au fond d'une fosse avec des éléments céramiques et surtout avec des charbons de bois et donc une datation au carbone 14, on a pu dater ces stèles du néolithique moyen, on est entre 3900 et 3600 avant Jésus-Christ, c'est ce qui permet la datation. Et sur la provenance, on a toute une zone, notamment sur le Vaucluse, mais ça vient jusque dans les Alpes de Haute-Provence, puisqu'on a une stèle à Niozel, une à Oraison, et puis d'autres petits exemplaires, et puis on en a aussi dans les Bouches-du-Rhône, du côté de Trets.
Et les stèles exposées, ce sont des reproductions ou les stèles originales ?
Alors au maximum, on présente des stèles originales, mais on a aussi quelques moulages pour des stèles qu'on n'a pas pu emprunter, notamment au musée Calvet d'Avignon. Mais évidemment, on présente des stèles originales, dont certaines n'ont jamais été présentées au public, notamment celle d'Oraison, dont on espère pouvoir faire l'acquisition pour le musée d'ailleurs, pour le futur parcours permanent.
Alors, outre les expositions, le travail même du musée de préhistoire, il y a d'autres activités que vous proposez, notamment la médiation auprès du public, les journées de préhistoire qui vont avoir lieu cette année.
Alors, la journée de préhistoire aura lieu le dimanche 21 juillet. On est en train de peaufiner le programme. Le thème, c'est la pierre dans tous ses éclats. Donc évidemment autour de la taille du silex, mais aussi autour des stèles, puisqu'elles sont elles-mêmes en pierre. On travaillera aussi sur la question de l'architecture en pierre sèche, puisqu'on sera dans le préhistocyte et que cette architecture, cette technique est bien représentée. Pour la journée de la préhistoire, on propose aussi un spectacle qui s'appelle Bac à fouille de la compagnie Kibou, qui proposera aussi des ateliers dans la journée à destination, le spectacle comme l'atelier, des tout-petits, une découverte de l'archéologie, mais vraiment à partir de 3 ans. Donc c'était aussi l'accent qu'on souhaitait mettre aujourd'hui sur le public, le très jeune public qui vient au musée, mais qui n'avait pas de proposition dédiée.
Et avant la journée de la préhistoire, le 12 juillet, il y a également...
Le 12 juillet, nous projetterons le film qui a été réalisé sur la vallée du Besse, qui s'appelle « Et un jour la mer se retira », donc sur l'histoire géologique de cette très belle vallée. Donc on projettera au musée dans le cadre de l'exposition « Sors de ta réserve ». Et en dehors de cette journée de préhistoire, on propose un programme étendu de propositions pour le public, à la fois sous forme d'ateliers comme d'habitude, mais au Préhistocyte notamment. Évidemment, on tient compte maintenant du climat, et donc avec plutôt des activités en extérieur le matin et en intérieur dans les maisons du Préhistocyte ou au musée l'après-midi. Et puis on a une nouveauté cette année, jouer avec la préhistoire. L'idée est de troquer la visite guidée classique du musée contre des interventions dans les salles sous forme d'interventions flash par les médiateurs et avec des petits jeux de pistes pour aider à mieux comprendre ce parcours permanent de manière ludique pour notre public familial.
Vous parliez du Préhistocyte qui est presque accolé, on va dire, au musée. Alors après maintenant 2 ans d'existence, il me semble, qu'en est-il ? Il a pris vraiment, il commence à prendre sa forme définitive ?
Alors effectivement, autant la première année, il était un peu aride, autant cette année, la végétation a bénéficié vraiment des intempéries, et c'est une très bonne chose. Donc la végétation commence à prendre de l'ampleur, ce qui était important aussi en termes d'ombrage au sein de cet espace. Et puis ce qui va nous permettre petit à petit aussi de sortir du simple discours autour de l'architecture pour aborder aussi l'environnement, puisque le Préhistocyte a été conçu avec un environnement reconstitué autour de chaque habitat dans la mesure du possible, évidemment. Suivant les périodes, on n'a pas le même climat. Bon, évidemment, on ne reviendra pas ni à une époque glaciaire ni à une époque très chaude, mais en tout cas, ça permet aussi de tenir ce discours. Et en tout cas, les médiateurs comme le public se sont bien approprié cet espace. On a mis un éco-compteur, on voit que ça fonctionne, il y a vraiment du passage.
Mais c'est un très bel endroit, on peut rappeler d'ailleurs que l'entrée est tout à fait libre.
L'entrée est complètement libre, on peut circuler autant qu'on le souhaite à l'intérieur, et simplement, voilà, les activités qu'on organise autour sont, elles, payantes, mais on peut tout à fait découvrir le Préhistocyte gratuitement.
Il reste enfin, si je puis dire, la grotte de la Bonne Baume, dont le sentier d'accès a été enfin refait.
En tout cas, le parcours a été complètement requalifié dans le cadre d'un projet européen, le projet Alcotra-Pepa. Ce sont nos collègues de l'unité itinérance et sports de nature qui ont pris en charge cette partie du projet, le fait de requalifier ce sentier, donc avec des aménagements de marches, un tracé qui a été revu aussi dans sa première partie, de manière à être plus accessible et plus facile. Et puis de notre côté, nous avons travaillé à la médiation autour de ce parcours. Donc il y a toujours un espace qui aujourd'hui s'appelle le belvédère du temps. Quand on arrive en haut de la falaise, qu'on a une vue magnifique sur la plaine de Quinçon et où on peut, au travers de dessins, interpréter aux différentes périodes de la préhistoire l'évolution du climat et des paysages, et aussi sous l'emprise de l'homme. Ensuite, on a un deuxième espace qui est une ancienne table d'orientation qu'on appelle la boussole de la préhistoire. On l'a réutilisée non pas comme table d'orientation classique, mais pour indiquer les directions dans lesquelles les préhistoriques sont allés chercher des ressources, que ce soit le mont Viseau pour des roches tenaces pour faire les haches du néolithique, du silex entre les monts du Vaucluse pour des silex de qualité, etc. Et puis le dernier espace, c'est évidemment devant la grotte où on a des panneaux explicatifs pour les gens qui font la rando sans le médiateur pour rentrer dans la grotte.
Quelle est cette grotte et quelle est son importance ?
C'est le site principal préhistorique des Gorges du Verdon. Principal parce qu'on a une stratigraphie énorme, donc une succession de couches d'occupation énormes qui nous permettent de remonter sur 400 000 ans. Donc ça nous permet de lire toute la succession des hommes qui se sont installés dans cette grotte, leur technique de taille, l'évolution de la faune, etc. Donc c'est vraiment le site majeur pour la région.
Les horaires peut-être d'animation ou de médiation ?
Alors sur les horaires, en fait, on propose des ateliers à 10h30 et à 11h30 le matin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. La randonnée à la grotte est proposée le mardi, le jeudi, le vendredi et le dimanche le matin, toujours à la fraîche, puisque là c'est entre 9h et 13h. La visite thématique de l'expo sur les stèles est proposée le samedi après-midi à 14h30. La visite guidée du musée classique est proposée le dimanche à 14h30. Et puis les visites flash auront lieu dans les salles les après-midi de manière régulière.
Alors pour la plupart de ces activités, il faut évidemment réserver. On se rapproche du musée ?
Alors on se rapproche du musée pour réserver les ateliers, la visite à la grotte, les visites guidées. En revanche, les interventions dans les salles, le jouer avec la préhistoire est complètement libre d'accès.
Pour contacter le musée, le site internet ?
Le site internet, c'est muséepréhistoire.com.